Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais simplement qu'on puisse prier, tant encore se placer devant Dieu. Alléluia, Papa. Seigneur, c'est vraiment une grâce de pouvoir venir devant toi. C'est une grâce de pouvoir être rassemblés en tant que famille devant toi. Merci parce que tu es assis au milieu de nous. Merci parce que tu nous rassembles. Tu t'es assis sur le siège et puis tu désires parler à nos cœurs. Tu nous rassembles entre tes bras. Tu nous dis, venez, écoutez, j'ai à vous parler. Seigneur, donne-nous des oreilles attentives pour entendre, pour écouter ce que tu veux nous dire. Pardonne les choses que je dirais peut-être mal ou de travers. Seigneur, donne-moi une bouche pour parler selon ton cœur. Donne-nous des oreilles pour entendre. Seigneur, parle à nos cœurs directement. Tu désires un cœur à cœur avec chacun. Chacun est ton enfant bien-aimé, avec qui tu as une relation particulière. Et tu désires te révéler à chacun particulièrement. Tu as besoin de resserrer les liens avec chacun de nous. Tu veux retisser la corde encore plus fortement, Seigneur. Tu veux rapprocher la corde. Seigneur, des fois, nous avons tiré sur la corde et nous nous sommes un peu éloignés. Mais Seigneur, tu es en train de resserrer les cordes. Tu resserres la corde jusqu'à toi et tu dis, rapproche-toi, rapproche-toi. Et tu veux que nous resserrions les cordes entre nous, les liens entre nous. Que nous nous rapprochions les uns des autres. Aide-nous, Seigneur. Pardonne toutes les fois où nous restons séparés. Toutes les fois où nous restons seuls. Délivre-nous de ça, Seigneur. Donne-nous de nous rassembler les uns aux autres, de nous relier les uns aux autres. Tu dis dans ta parole que la religion, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins, et la religion, c'est se relier les uns aux autres. Et Seigneur, nous voulons nous relier les uns aux autres. Nous voulons nous relier à toi, et nous voulons nous relier à ceux qui sont faibles au milieu de nous en particulier, ceux qui ont particulièrement besoin. Aide-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Alléluia. On pourrait peut-être rester simplement un temps devant la face du Père. Parler avec notre Dieu. Parle à ton papa. Alléluia. Alléluia, je crois que vraiment que le Seigneur, il a dit, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne pouvez entrer dans le royaume du ciel. Je crois vraiment qu'on est appelé à redevenir comme des enfants, simples, confiants. Un enfant, il te croit, il croit ce que tu dis. Il ne discute pas sans arrêt, il a confiance en toi, il vient sur tes genoux. Et on a besoin de ça, de savoir revenir sur les genoux de papa, s'arrêter, prendre son temps avec notre Père. Je voudrais prendre dans Luc 6. David a dit ce matin qu'il a rappelé un message dans le message de Luc qui parlait des temps des cordages. C'est exactement ça. Et il y a encore l'autre partie aussi, et je crois que c'est l'autre partie que j'avais à cœur de parler. C'est affermis tes pieux. Et quand Luc avait partagé ça la semaine dernière, juste avant qu'il parle de ça, j'ai pensé à ces pieux qu'on affermit. Et là, pour la première fois, je me suis dit, mais mince, pourquoi il faut affermir ? Parce qu'il y a une tempête qui vient, qui souffle sur la tente. Et alors, on a besoin d'affermir, d'enfoncer les piquets bien dans la terre pour que ça tienne quand le vent souffle. Et c'est juste ce que Luc a dit après. C'était la première fois que je voyais. Et c'est ça que j'aimerais dire. Tenir ferme dans la tempête. Luc 6, 46 à 49. Est-ce que je peux lire jusqu'à partir du verset 27 déjà ? Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Nous, on dit déjà, aimez-vous les uns les autres, et c'est déjà 10 fois difficile. Hein. On a des fois du mal, parce qu'on voit nos caractères, et plus on se rencontre, plus on se voit, plus on réalise nos faiblesses, et plus on se dit, mince, c'est peut-être pas évident. On a envie de justice et tout, et on se dit, mince, monsieur-là, est-ce que je peux vraiment l'aimer, etc. Est-ce que c'est juste ce qu'il fait ? Et le Seigneur, il va bien plus loin encore, il dit, aime tes ennemis. Non seulement aime tes frères et sœurs, non seulement c'est déjà hyper important, mais en plus, aime tes ennemis. Fais du bien à ceux qui te haïssent. Ah, parce qu'on risque de te haïr. Tu risques d'être haï. Est-ce que tu vas accepter ça, d'être haï ? Est-ce que tu es prêt à être haï ? Peut-être à cause du nom du Seigneur. Est-ce que tu es prêt à bénir ceux qui te haïssent et à les faire du bien ? À aller nettoyer les carreaux de ceux qui te haïssent, par exemple, ou nettoyer la voiture, je ne sais pas moi. Ça peut être ce que Dieu te demandera. Appelle la bénédiction sur ceux qui te maudissent. Prie pour ceux qui te calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, donne-lui même encore aussi ta chemise. Combien on est prêt à défendre nos intérêts ? Et le Seigneur dit, mais tu n'as pas besoin de rechercher. Donne ce que tu as. Donne à tous ceux qui te demandent. Si quelqu'un prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende, ne le réclame pas. Fais pour les autres ce que tu voudrais qu'ils fassent aussi pour toi. Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, penses-tu avoir droit à une reconnaissance particulière ? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Si tu fais du bien seulement à ceux qui t'en font, pourquoi t'attendais-tu aussi à de la reconnaissance ? Les pécheurs ne font pas la même chose ? Si tu prêtes seulement à ceux dont tu espères être remboursé, quelle reconnaissance te doit-on ? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Toi, au contraire, aime tes ennemis, fais-leur du bien, prête sans espoir de retour. Alors ta récompense sera grande et tu seras fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et pour les méchants. Ton Père est rempli de bonté, il est rempli d'amour. Sois donc bon comme lui. Ne te pose pas en juge des autres, et tu ne seras pas toi-même jugé. Garde-toi de condamner les autres, et à ton tour tu ne seras pas condamné. Pardonne, et tu seras toi aussi pardonné. Donne, et l'on te donnera. On mettra dans ton manteau une mesure débordante, bien tassée, secouée, car on utilisera envers toi la mesure dont tu auras utilisé pour les autres. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère si tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Etc. Et verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et vous ne faites même pas ce que je vous dis, ce que je vous commande ? Vous savez comment ressemble celui qui vient à moi et qui ne fait pas ce que je dis ? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé, il est allé profond, et il a mis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, quand les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, quand les vents ont soufflé, dans d'autres versions aussi, dans d'autres passages, mais elles n'ont pas pu l'ébranler, parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme qui a construit sa maison sur la terre, sur le sable, sans lui donner de fondation. Quand les eaux du fleuve sont venues et se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée, il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. » Je pense que là, il y a vraiment des instructions du Seigneur à prendre au sérieux, à vraiment les utiliser comme des fondations pour notre maison. Pourquoi ? Parce qu'il est sûr qu'un jour, qu'est-ce qui va arriver ? La tempête va venir. Le Seigneur, il n'a pas dit peut-être, il n'a pas dit qu'un jour. Il a dit le torrent va venir, les vents vont souffler avec violence. Tu es sûr d'essuyer des tempêtes dans ta vie. Tu es sûr que ta maison va essuyer des tempêtes. Tu es sûr que ton église va essuyer des tempêtes. Tu es sûr que ta nation va essuyer des tempêtes. Et tu es sûr que le monde va essuyer des tempêtes. C'est certain. Mais comment bâtis-tu ? Est-ce que tu bâtis en utilisant mes paroles ? Est-ce que tu les gardes dans ton cœur ? Est-ce que tu assois ces choses dans ta vie ? Ou est-ce que tu vis au jour le jour ? Est-ce que tu regardes simplement les choses comme elles vont ? Tu te dis la mer est d'huile, tout va bien, tout est calme. Où est la tempête ? Il n'y a rien qui pointe à l'horizon. Et le Seigneur dit, mais la tempête, elle arrive sur toi. Et non seulement elle arrive, mais ce n'est pas une petite tempête, ce sont des immenses tempêtes. Et non seulement ce sont des immenses tempêtes, mais en plus, elles se jettent sur toi. Quand on lit tous les passages de la tempête, ce sont des mots violents qui viennent. Elles se jettent sur toi, elles se ruent sur toi, elles se déchaînent contre toi. La tempête, elle vient pour se déchaîner contre toi. Qu'as-tu fait pour te protéger des tempêtes ? Il faut absolument qu'on prenne les paroles du Seigneur et qu'on les serre dans notre cœur. Et j'étais étonné dans le Nouveau Testament ces derniers temps, je rendais compte d'une expression que je ne connaissais pas. C'est tenir ferme. Tenir ferme. Combien de fois ? Il y a plusieurs passages. Et le Seigneur dit, tenir ferme, c'est comme l'attitude d'un soldat qui s'est revêtu de ses armes et qui a pris position et qui tient bon. Psaume 112, 7, son cœur est ferme, il est confiant dans l'Éternel. 1 Corinthiens 15, 8, soyez fermes, inébranlables, mes frères et sœurs bien-aimés. 16, 3, veille, demeure ferme dans la foi. Soit des hommes, alors on pourrait dire soit des femmes ou soit une femme, hein, ou soit une femme avec, prête à te battre comme un homme. Fortifie-toi, que tout ce que tu fais se fasse dans l'amour, mais aussi fortifie-toi. 2 Corinthiens 1, 24, vous êtes ferme dans la foi. Éphésiens 6, 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il va y avoir des tempêtes qui vont venir, tu vas devoir les surmonter, et il faudra même qu'après ça, tu tiennes encore ferme, parce que tu ne sais pas s'il n'y a pas une après-tempête qui arrive. Tenir ferme, surmonter, et encore tenir ferme. Et au verset 14, il reprend, tenez donc ferme, revêtez toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu, donc on a besoin de bâtir notre caractère en accomplissant tout ce que Jésus a dit, et de prendre aussi par-dessus ça les armes du combat, les armes de la foi. Hein, vous vous rappelez de ces armes ? Et souvent, je pense à ces armes. Et nous, on a l'image du soldat encore, cette cuirasse en ferraille. Et c'est vrai. Et en même temps, cette cuirasse, vous savez quoi? C'est notre peau. La cuirasse du guerrier, c'est notre peau. Elle fait partie de nous, elle est vivante. La cuirasse de justice est vivante. Le casque du salut, il fait partie de toi, de ta tête. Il fait partie de ton être, de qui tu es. Ton épée, c'est la prolongation de ta main. Elle est vivante avec toi. Simplement, ces armes, on peut ne pas s'en revêtir. Comme le manteau de justice, comme le manteau de la vie de Jésus, revêtez-vous de Jésus, nous dit la parole. Et on peut ne pas s'en revêtir, pourtant ça fait partie de notre vie. Et on peut négliger de se revêtir. On doit revêtir nos habits. Ça doit venir quelque chose qui fait partie de notre vie, de notre nature. De savoir utiliser, avoir les armes et les utiliser pour être prêt dans le mauvais jour, pour être prêt dans la tempête. Hébreux 3:6. Il faut que tu retiennes la ferme confiance et l'espérance dont tu te glorifies. 11:27. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il n'a pas craint la colère du roi. Et moi, je crois qu'il y a des colères qui viennent. Il n'a pas craint la colère. Il s'est montré ferme. Que la fermeté rentre dans notre nature. Que la fermeté rentre dans notre colonne vertébrale. 1 Pierre 5:9. Résiste au diable avec une foi ferme. Résiste au diable. Il faut qu'on apprenne à résister, à devenir de vrais résistants. La foi des Huguenots doit devenir la nôtre. La résistance des Huguenots doit devenir la nôtre. Elle doit commencer à nous animer, à nous remplir et à devenir de vaillants guerriers qui résistent, qui tiennent ferme et qui vont de l'avant et qui combattent. Apocalypse 3:11. Tiens ferme ce que tu as. Moi, ça me faisait penser, mais si je dois tenir ferme ce que j'ai, pourquoi? Pourquoi je tiens ferme ce que j'ai? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut venir me le voler. J'ai des tempêtes qui viennent contre moi, j'ai des ennemis qui viennent contre moi. On veut me balayer, on veut renverser mon bateau, on veut noyer ma vie, on veut voler ce que j'ai. Et je dois tenir ferme ce que j'ai, je dois tenir ferme dans la foi. Jérémie 25. Job, il disait, je ne vais pas le prendre, mais dans 9, 17, il disait, mais le Seigneur, il est venu contre moi avec ses tempêtes. Il a envoyé ses tempêtes sur ma vie. Pourquoi c'était ces tempêtes? C'était les épreuves. Et des fois, on pense que le Seigneur n'est pas là. Mais le Seigneur permet des fois des tempêtes dans nos vies sans qu'on ait une explication particulière à avoir. Mais que ferais-je dans la tempête? Est-ce que je m'écraserais? Est-ce que je m'écroulerais? Ou est-ce que je croirais que Dieu ne m'a pas abandonné dans la tempête? 25-31. Je voudrais parler par rapport aux tempêtes dans les nations. Le tumulte, au verset 30 déjà. L'Éternel rugit d'en haut. De sa demeure sainte, il tonne de la voix. Il pousse des rugissements contre son pâturage. Il crie contre tous les habitants du pays, tout comme ceux qui foulent le raisin. Le tumulte en parvient aux confins de la terre. L'Éternel fait le procès des nations et il juge tous les humains. Il livre les méchants au glaive et l'Éternel le déclare. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Un malheur se propage d'une nation à l'autre. Une autre version dit la calamité va d'une nation à l'autre. Elle se répand d'une nation à l'autre. On peut facilement penser aux pestes qui se vont, ou à la maladie, même au sida, même à la grippe aviaire, merci, qui risque de se propager d'une nation à l'autre. On risque d'entendre de plus en plus ces bruits de peur, ces bruits de calamité qui veulent venir contre nous. Des confins de la terre, une terrible tempête se lève. Des tempêtes se préparent. Il y a des colonnes de tornades qui sont en train de se former dans des déserts ou au-dessus de pays, et elles vont commencer à circuler au-dessus des nations. Elles vont commencer à envoyer leurs tempêtes partout. Et on y sera dedans. Et en même temps, qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Psaume 107, 23-32. Certains s'étaient embarqués sur la mer et ils travaillaient sur les eaux immenses. Là, ils ont vu ce que l'Éternel fait et ses miracles sur la haute mer. Ça me fait penser au chant que David prenait tout à l'heure, ça m'a vraiment marqué. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous sur cette mer immense? Si tu n'étais pas là, si tu ne prenais pas soin de nous, si nous ne savions pas que tu es avec nous. Nous sommes partis au large, nous avons quitté le port. On sait qu'il y a un port qui nous attend de l'autre côté, mais on est encore en pleine mer. Seigneur, si tu n'étais pas là pour nous secourir, et non seulement on est au large et en pleine mer, mais en plus, la tempête se lève. D'un mot, il fit lever une tempête. Vous avez remarqué qui est-ce qui fait lever la tempête ? Alors je le dis avec crainte, le Seigneur, d'un mot, fait lever les tempêtes. Maintenant, ça ne veut pas dire que lui envoie la tempête pour te détruire. Ça veut dire que le Seigneur a des jugements à envoyer. Et ces jugements passent par des tempêtes. Mais au cœur de la tempête, Dieu veut te garder. Dieu veut te préserver. D'un mot, il fit lever une tempête et les flots de la mer se soulevèrent. Tantôt, ils étaient portés jusqu'au ciel. Hein, on monte. Et tantôt, ils retombaient d'un coup sec dans les abîmes. Ils étaient saisis d'effroi et d'angoisse. Est-ce que ça a déjà pu vous arriver dans vos vies ? Des moments d'angoisse, des moments de peur, des moments d'effroi. On ne sait plus où on en est. On ne sait plus qu'est-ce qui peut arriver dans notre vie. On a eu l'impression qu'il y a des vagues qui sont venues vague après vague et qui ont emporté notre bateau. Et notre bateau, il a plus d'encre. Il ne sait plus où il en est. On ne sait plus ce qui risque d'arriver demain. On ne sait plus quelle est la prochaine lettre qui risque de nous tomber dessus. On monte et on nous descend. On monte et on retombe. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres. Toute leur adresse avait disparu. Ils n'avaient plus de force. Ils ne savaient plus comment faire. Ils ne savaient plus quoi dire. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Amen. Il y a quelque chose qu'on peut toujours faire. C'est crier à l'Éternel. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Il y a quelque chose que le Seigneur a donné à l'homme, c'est le cri. À quelque endroit que tu arrives un jour dans ta vie, tu peux crier. Et l'Éternel entendra ton cri. Il a entendu le cri de Jonas dans le poisson, il l'a sauvé. L'Éternel entendra toujours ton cri là où tu es. Il viendra après toi, il viendra ton secours. Et il les délivra de leurs angoisses. Il réduisit la tempête au silence et il apaisa la furie des vagues. Ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré. Ma version aussi dit « Et les ondes se turent ». Comme j'aime ce mot, les ondes se turent. Le grand calme se fit, les ondes se turent. C'était la tempête, c'était le cri, c'était la furie, le déchaînement des ennemis. Et les vagues et les ondes se turent. Ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida jusqu'au port. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes, qu'ils le célèbrent dans l'assemblée de leur peuple et qu'ils le louent dans le vent le conseil des autorités. Amen. Ça ne vous fait pas penser à un autre passage ? À quoi ça vous fait penser ? Ça vous fait penser à quelque chose quand même ? Ça ne vous fait pas penser à quelque chose ce passage de la tempête ? Merci Huguette, les disciples dans la barque. Amen. Est-ce que j'ai retrouvé le passage ? Marc 4, 35. Quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac ou de la mer. » Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque, où il se trouvait d'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent violent, énormément violent, se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Il y a d'autres versions ou d'autres passages qui disent « La tempête fondit sur le bateau, comme un aigle fond sur sa proie. » Ce n'est pas une tempête qui arrive, on a vu, waouh, ça commence à se charger, waouh, c'est tout noir dans le ciel. Ouh là là, il faut se préparer à une grosse saucée, non. C'était calme. Ils étaient en train de parler, le Seigneur dormait. Tout était calme, tout allait bien. Puis, d'un coup, la tempête est arrivée, elle a soufflé, elle a tout emporté. Et ils en étaient prêts, ils se disent, mais on va mourir. Pourtant, des tempêtes comme ça sur le lac de Génézareth, c'est ce qu'on ne connaît pas, ça, il me semble. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, tu t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent, le menaça et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit en grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous eu si peur ? Pourquoi as-tu si peur ? Pourquoi ne crois-tu pas encore ? Pourquoi n'as-tu pas foi en moi ?» Et Jeff Davidson y parlait de ce passage. Et en anglais, ce mot « menacer », c'est « rebuke ». Ça veut dire « il a parlé à une personne ». Et le vent, souvent dans la parole, en fait, c'est considéré comme des esprits. Il y a des esprits qui viennent de Dieu et des esprits qui viennent de l'ennemi. Et les vents qui viennent dans notre vie, les tempêtes qui viennent, ce ne sont pas des tempêtes innocentes. Ce sont des projets de l'ennemi permis par le Seigneur, c'est vrai, pour détruire, pour écraser, pour emporter. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, on est ancré dans, on garde notre paix dans le Seigneur, notre foi, on garde notre calme dans le Seigneur, et on peut ordonner à des tempêtes de se calmer. On peut commander à des vents de se taire. On peut commander à des vents de passer de chaque côté de notre maison et de ne pas toucher à notre maison. Il y a des tempêtes que Dieu permettra, qui nous touchent, et on ne sera pas brisé, on ne sera pas blessé. Daniel, dans la fosse aux lions, il a essuyé la tempête, et ils n'ont pas été touchés par le feu. Et il y en a d'autres qui n'ont pas été dans la fosse aux lions. La tempête, elle est passée de chaque côté. On ne sait pas comment Dieu agira dans notre vie, mais ce que nous devons savoir, c'est que quoi qu'il arrive, nous pouvons garder notre paix en Dieu, notre foi en lui, parce qu'il agit. Soit qu'il nous garde dans la tempête, soit que nous pouvons utiliser notre autorité pour ordonner à la tempête de s'éloigner. Nous devons être attentifs à l'esprit pour savoir comment agir, mais nous devons être fermes en Dieu et pas nous laisser emporter par la peur, par l'effroi ou par l'angoisse. Nous devons parler à notre propre peur et à notre propre angoisse et lui dire « Silence, tais-toi, tais-toi peur, tais-toi angoisse. Je suis dans la main de mon Dieu, dans la main de Papa, il me garde. Je proclame des paroles de foi, des paroles de paix. Je dis des paroles de paix à mon âme, paix mon âme, sécurité. Ce n'est pas une fausse paix, ce n'est pas une fausse sécurité. La fausse paix, c'est de se dire « Waouh, la mer a l'air calme. Où est la tempête ?» Ça, c'est une fausse paix. La vraie paix, c'est de dire, même si la tempête et l'effroi, je dis non, paix mon âme, parce que ton Dieu est ton rocher, ton Dieu est ton secours, il te tient ferme, c'est lui qui te tient dans sa main, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Paix mon âme, glorifie-toi en Dieu, il est ton secours, il est ta forteresse. C'est Rick Joyner qui parlait d'une vision aussi qu'il avait vue sur l'église, comme une île, avec des vents qui se levaient au sein de l'île, des tempêtes à l'intérieur de l'île. Et il avait vu deux vents particulièrement, c'était la jalousie et la peur. Ça veut dire pour moi, nous devons nous tenir fermes, particulièrement contre ces deux ennemis, contre toute jalousie et contre la peur. Tenons-nous fermes contre ces ennemis, bannissons la peur. Quelqu'un d'autre avait une vision par rapport à la peur. Elle se voyait fuir dans toutes les pièces d'une immense maison. Elle était poursuivie par les démons de peur et elle ne savait plus où aller, où se cacher. Elle fuyait, elle criait et elle ne savait pas où se cacher. Et elle est sortie à un moment donné de la maison, elle est partie sur le chemin. Et à un moment donné, elle s'est retournée, elle a vu les démons de peur, et elle a vu dans leurs yeux. Et vous savez ce qu'elle a vu dans les yeux de ces démons ? Elle a vu la peur. Elle a vu la peur de Jésus qui habite en elle. Elle s'est retournée, et elle a commencé à se dire, mais c'est eux d'avoir peur de moi. Les démons de peur, pourquoi ils sont des démons de peur ? Parce qu'ils ont peur. Les démons de peur, au nom de Jésus, tu te retournes et tu t'en vas. Et si toi tu résistes, si tu commences à résister et à tenir ferme, qu'est-ce qu'elle dit la parole ? Elle dit résistez, tenez, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et les démons de peur, soumettez-vous à Dieu, merci Manu, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et les démons de peur sont partis. Nous devons apprendre à résister ferme à ceux qui nous poursuivent. Vous êtes poursuivis, vous serez poursuivis, c'est clair. Pourquoi ? Parce que vous êtes des soldats. Vous êtes en guerre et vous êtes des soldats valeureux. Vous êtes des braves guerriers. Qui que tu sois, quel que soit ton nom, si tu es jeune ou grand, si tu es homme ou dame, âgé ou jeune, tu es un vaillant guerrier. Tu es un brave guerrier. Et l'ennemi a juré ta perte et il va essayer de combattre contre toi, c'est clair. Mais si toi tu te tiens debout, si tu tiens ferme, si tu as revêtu tes armes, si tu obéis aux paroles du Seigneur, si tu aimes, si tu as confiance en Dieu et que d'un coup tu te retournes, l'ennemi, il a peur de toi et il fuit. Il fuit. Et il en sera pareil de tous tes ennemis, quels que soient tes ennemis. L'ennemi va s'attaquer à trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et il envoie ses tempêtes pour les saper. Vous savez que les tempêtes, elles sapent les falaises à la base. Et l'ennemi, il envoie ses tempêtes pour saper ses valeurs à leur base dans ta vie. Il va saper ta foi, il veut saper ton espérance et il veut saper ton amour. Et il va venir vers toi avec ses tempêtes et ses vents violents. Et il va te dire, Dieu ne s'occupe pas de toi. Tu ne comptes pas pour lui. C'est vain pour toi d'essayer de le suivre. Tu ne tiendras pas debout. Il ne viendra pas à mon aide. Qui suis-je pour lui ? Pourquoi croire en Dieu ? Ses ennemis, ces tempêtes vont venir et vont te saper. C'est toutes les tempêtes que tu peux imaginer. Et toi, résiste-lui avec une foi ferme. Tiens ferme. Je sais en qui j'ai cru. J'ai confiance en mon Dieu. Il prend soin de moi. Il va saper ton espérance. Je ne m'en sortirai jamais. Je suis seul. Je suis abandonné. Quel avenir pour moi? Ce sera toujours comme ça. Dieu m'abandonne. Ce sont des mensonges de l'ennemi. Même si elles ont l'air bien en l'air même, même si elles ont l'air vraies, même si elles ont l'air d'être tes propres pensées, ce sont des mensonges de l'ennemi qu'il envoie pour saper ton espérance à leur base, à sa base. Et il veut saper ton amour. Il va envoyer vers toi de la jalousie, de la perte de confiance en tes frères et sœurs, de la critique, du jugement, de l'indifférence, du manque de pardon, de l'amertume et de la rancune. Il va vouloir attaquer ton amour. Il va vouloir faire que tu ne puisses plus avoir de croire que tu peux encore aimer d'autres. Il va te dire, c'est plus la peine d'essayer. C'est plus la peine de croire. Et comment il fait? Il va te dire, tu vas te relever une fois, tu vas encore essayer, puis tu vas retomber. Parce qu'on va, te faire faillite. Parce qu'il y en a qui, parce qu'on va, on va te faire défaut, peut-être. Il y a des chances que ça arrive. Mais quoi qu'il arrive, tu peux toujours garder l'espérance et l'amour pour ton frère. Parce que Dieu l'a fait. Dieu a espéré contre toute espérance. Dieu a cru contre toute foi possible. Et il a aimé contre tout amour possible. Et t'a aimé toi. Pourtant, la Bible nous traite d'haïssables. Il a cru en toi. Pourtant, nous-mêmes, on ne peut pas se faire croire en nous. Il espère en toi. Pourtant, nous-mêmes, qui oserait croire en nous? Je ne sais pas, quand vous avez souvent fait, vous avez déjà fait du sport, on essayait de former des équipes. Qui c'est parmi vous qui a souvent, des fois, été le dernier dans l'équipe à être pris? Moi, j'étais un des derniers à être pris. Toujours. Et bien, le Seigneur te dit, moi, je te prends dans mon équipe tout de suite. Tout de suite, je te prends dans mon équipe. Je crois en toi et j'espère en toi et j'ai envie de toi dans mon équipe. J'ai envie que tu sois dans mon équipe. J'ai envie de pouvoir vivre ces choses que je vais vivre avec toi. J'ai envie, quand je vais à la guerre et au combat, j'ai envie que tu sois derrière moi dans mon équipe. J'ai envie que tu sois tout près de moi. J'ai pas envie de vivre les combats tout seul. Je pourrais les vivre tout seul. J'ai pas peur de l'ennemi. J'ai peur de personne. Aucun ennemi n'arrive à ma cheville. Mais je vais au combat avec toi et avec mon équipe. Parce que j'ai envie qu'elle fasse partie de la bataille. J'ai envie que mon équipe sache se battre et battre l'ennemi. Pardon. J'ai envie qu'elle connaisse la guerre et j'ai envie qu'elle n'ait plus peur de la guerre. J'ai envie qu'elle se dise, tiens, il y a une guerre, allons-y. Et on sera vainqueur. Parce qu'elle a appris à me connaître et à s'appuyer sur moi. Tiens, il y a une tempête, allons dans la tempête. Et battons la tempête en brèche. Réduisons cette tempête en bouillie. Où c'est qu'il y a la prochaine tempête? C'est ça que Dieu va faire de vous. Paul, qu'est-ce qu'il a vécu dans Actes 27? Il a vécu une immense tempête. Vous vous rappelez de cette tempête? Hein? Il était en train d'être emmené à Rome. Il était prisonnier d'une armée. Un vent violent comme un typhon. Et même, il y a un nom qui est donné à ce vent, l'Eurakilon. Quand le Seigneur donne un nom à quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui est vivant. C'est mis à souffler des hauteurs de l'île. Le bateau était entraîné au large. Il ne pouvait pas résister au vent et nous avons dû nous laisser emporter à la dérive. Plus loin, nous sommes parvenus à grand-peine à hisser à bord le canot de sauvetage. On a eu recours à des moyens de fortune, etc. Comme on avait peur d'échouer sur les bancs de sable de la Sirte, etc. La tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence. Vous pouvez imaginer une tempête qui secoue un bateau. On a délesté le bateau d'une partie de sa cargaison. Le troisième jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus le soleil ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage. Et rage, c'était un des autres noms des tempêtes que Rick Joyner voyait se lever contre l'église. Et c'était des tempêtes de l'extérieur cette fois. Rage, je ne me rappelle plus l'autre. C'est pas grave. En tout cas, il y a la rage de l'ennemi contre toi. L'ennemi se lève avec toi avec rage. Il a de la rage. L'Apocalypse dit que le diable est descendu avec rage. Il sait qu'il a peu de temps pour faire la guerre avec colère aux élus. La rage de l'ennemi, la rage de ceux qui vont voir l'Église se lever. Vous allez susciter de la rage dans le cœur de vos ennemis. Ne soyez pas étonnés de la rage qui va se lever contre vous. Et nous finissions par perdre tout espoir. La tempête avait enlevé l'espoir dans le cœur des matelots. Ils pensaient qu'ils s'en sortiraient jamais vivants. Pendant 15 jours, c'était la nuit, la tempête, le secouement. Ils étaient secoués dans tous les sens. Ils n'avaient plus qu'une chose à faire, c'était de se tenir quelque part. Est-ce que ça va tenir ou pas? Il ne restait plus rien. Plus rien du tout. Ils pensaient que même que eux, leur vie allait s'écrouler comme un rien, comme un fétu de paille. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Ils disaient même à quoi bon manger, certainement. Et Paul dit, un ange du Dieu à qui j'apparais, à qui j'appartiens est venu et m'a dit, Paul, ne crains rien. Paul, ne crains rien. T'es sûr, Seigneur ? Ben oui, crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie de tous tes compagnons de voyage. Amen. Amen. Dieu t'accorde la vie de tes compagnons de voyage. Qu'est-ce que Dieu veut faire ? Il veut faire de toi quelqu'un qui va sauver la vie de tes compagnons de voyage. Il va faire de toi un abri contre la tempête. Ésaïe 32, 2. Ils se lèveront et seront des abris contre la tempête. Tu vas devenir un abri contre la tempête. Et non seulement tu seras un abri, mais tu seras quelque chose qui va faire taire les tempêtes. Au nom de Jésus, tempête, tu te tais. Tempête, calme-toi dans l'autorité du nom de Jésus. Et la tempête se tue. Et il y eut un grand calme. Et les ondes se turent. C'est ça qui va y arriver dans les nations. Et alors on se dit, Seigneur, comment se fait-il que tu parles de tempête et en même temps tu parles de gloire ? Et j'avais été marqué parce que j'avais vu un schéma. Vous savez comment dans l'Ancien Testament on a annoncé le Messie ? On a annoncé un Messie glorieux, un Messie qui venait pour régner. Et c'est ce que les pharisiens avaient retenu. Le Messie vient pour régner sur la terre. Et quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas entendu le message du Messie souffrant. Ils n'avaient pas entendu, vu qu'il y avait deux messages, le Messie souffrant et le Messie glorieux. Et ils n'ont pas vu le Messie souffrant. Mais le Messie souffrant annonçait le Messie glorieux. Et il en est pareil de même pour l'Église. Le Seigneur annonce des temps de tempête, des temps de difficultés, et en même temps, il te dit, mais réjouis-toi, Église. Lève-toi parce que ta lumière est en train de paraître. Et sur toi, sa gloire se lève. Les deux, c'est la même, c'est les deux facettes d'une même réalité. Tempête et gloire. Tempête et gloire. Parce que le Seigneur vient, il va détruire nos bateaux de bois, il va détruire les choses sur lesquelles on s'appuie, il va juger le péché dans nos vies, mais en même temps, il va le faire lever sa gloire dans nos vies. Et nous allons nous accrocher à lui, nous allons savoir nous tenir à lui, et nous allons savoir bâtir des abris contre la tempête pour des nations. Nous allons savoir nourrir des nations. Nous ne devons pas avoir peur de ce qui vient. Nous ne devons pas chercher comment nous réfugier, comment nous protéger. Nous devons savoir entendre la voix du Seigneur. Nous devons savoir tenir ferme. Nous devons savoir nous retourner contre l'ennemi. Et nous devons savoir que nous allons nourrir des nations. Nous allons nourrir ceux qui se tiennent autour de nous, nos compagnons de voyage. Ils devront leur vie à nous parce que nous avons appris à nous tenir ferme dans le Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Je pense qu'il y aurait peut-être quatre petits points pour nous rappeler. Premièrement, ne crains pas la mort. Hein ? Ils ont tenu ferme à cause de la parole de leur témoignage et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ne crains pas la mort. Si tu crains la mort, tu es victorieux au travers de tout ce qui va t'arriver. Ça ne veut pas dire que le Seigneur veut que tu meures, mais ça veut dire que la mort ne te fait pas peur. Parce que tu sais que tu es vivant pour l'éternité. Tu sais que ta vie, n'est qu'un passage, que tu es assis dans les lieux célestes et que c'est là ta vie. Et tu ne crains plus la mort. Deuxièmement, obéir à Christ et à sa parole. Garder les choses que Dieu nous a données, les choses que Jésus a dites. Troisièmement, ne pas avoir peur de la tempête, parce que Dieu est plus grand. Il fait de toi un vainqueur des tempêtes. Quatrièmement, résister aux puissances ennemies et les faire reculer par l'autorité que tu as en Christ et devenir un abri contre la tempête pour d'autres, par la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Alléluia, papa. Est-ce que tu penserais avoir un moment de prière ? Non. Alléluia, papa. Seigneur, on veut vraiment te rendre gloire parce que tu es le vivant. Je te loue, Seigneur Jésus, pour les tempêtes. Toi, tu étais dans la barque et tu dormais. Tu t'es pas réveillé quand la tempête a soufflé. Tu n'as pas dit « Waouh, quelle tempête !» Tu es resté endormi. Ça veut dire que tu savais qu'il n'y avait rien à craindre. Je te loue parce que tu es dans la barque de chacun d'entre nous. Tu es endormi dans... Peut-être tu donnes l'impression de dormir. Peut-être que on a l'impression qu'on t'a plus entendu depuis longtemps. Peut-être qu'on a l'impression qu'on n'a plus de relation vivante avec toi. Peut-être qu'on ne sait plus entièrement où on en est avec toi. On a l'impression que tu dors et il y a des tempêtes qui soufflent dans nos vies. Eh bien, le Seigneur te dit, ne crains pas. N'aie pas peur. Pourquoi douterais-tu ? C'est moi qui suis venu te chercher. Tu viens de moi. Tout dans ta vie a son origine en moi. Je t'ai créé. Je t'ai formé, je t'ai façonné, je t'ai fait, je t'ai acheté, j'ai donné ma vie pour toi. C'est moi qui suis venu te chercher, c'est moi qui t'ai attaché à moi. Tout vient de moi. Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas tes essais, c'est pas ce que tu as essayé de faire dans ta vie, c'est pas ta marche, c'est moi dans ta vie, c'est moi en toi. Aujourd'hui encore, c'est moi en toi. Ça fait peut-être des mois que tu n'as plus entendu parler de moi, c'est peut-être des mois que tu n'as plus de relation avec moi, mais moi je te dis que c'est moi en toi, c'est moi dans ta vie, c'est moi dans ta barque. Alors tu n'as rien à craindre, tu es mon bien-aimé, je t'ai aimé. Je t'ai voulu depuis toujours, j'ai voulu que tu sois avec moi. Tout ce que tu as vécu, c'est à cause de moi, c'est par moi, c'est parce que je veux que tu sois avec moi. Alors aujourd'hui, ne crains pas. Aujourd'hui, aie foi en moi. Aujourd'hui, reprends le manteau de la foi. Relève le manteau de l'espérance dans ta vie et reprends l'amour. Garde-les, serre-les, parce que ce sont des valeurs qui vont demeurer envers et contre tout. Garde foi en moi. Tiens ferme, n'aie pas peur. Ne regarde pas non plus, ne crois pas que ça va être tranquille parce qu'autour de toi, tout est calme. Sache que la tempête va certainement venir. Mais n'aie pas peur. Aie confiance. Fais-moi confiance jour après jour. Alléluia. Il y a des tempêtes qui s'ouvrent déjà sur les nations. Et on a des frères et sœurs qui sont en train de tenir ferme. On a des frères et sœurs qui sont en train d'apprendre des leçons qui vont nous servir à nous-mêmes plus tard. Apprenons, sachant que nous sommes une armée dans les nations et que nous allons tenir ferme ensemble. Sachant que la gloire de Dieu se lève sur nos vies. Amen. Amen. Alléluia, Jésus.